Enfance de classe.
Être et savoir. Louise Touret.
Comment s'expliquent les choix éducatifs? Qu'est-ce qui les motive, les conditionne, les limite? Vous avez sûrement entendu parler d'Enfance de classe, le livre de Bernard Lahire et d'une équipe de sociologues paru en cette rentrée 2019. Cet ouvrage nous raconte ce qu'est l'éducation aujourd'hui en décrivant en détail la situation de 20 enfants. Alors vraiment en détail, mais il y en a plus. Ce sont des enfants de 5 ans. Et 5 ans, c'est l'âge de la grande section d'école maternelle. Alors qu'a-t-on appris à 5 ans? Les sociologues le décrivent par le menu, ainsi que la construction des dispositions et des goûts, des valeurs qui seront intériorisées pour toute la vie, mais aussi de ce qui relève de la confiance, des contraintes, une forme de modestie et même la peur. Et ça aussi, ça peut rester toute la vie. Dans le titre, « Enfance » est écrit au pluriel. Cette somme, car c'en est une, documente donc en détail les inégalités telles qu'elles se lisent à travers la vie des familles. L'enfant y est observé, à l'intérieur de sa cellule familiale, à l'école et dans un monde plus large où se déploient déjà ses goûts, des types de consommation, une ouverture à la culture. Enfance de classe explore donc les centaines de petits plis, les micro-détails de la vie quotidienne. Se parler, manger, se vêtir, se soigner, se divertir, avoir des principes sur ce qu'on fait et les exprimer. Ce livre parle de vous, il parle de moi. Il parle des Français et il peut peut-être nous faire accéder à une certaine compréhension de l'autre, des autres. Et il le fait avec les outils de la sociologie, il y a toute une partie théorique, et aussi de l'écriture, dans la partie plus descriptive, car ce sont de véritables récits, incarnés donc, et vivants, récits qui sont faits à la hauteur d'enfants. Et se placer là, c'est aussi une manière singulière d'observer les adultes, les institutions, comme l'école, et finalement aussi un certain état de la France. En fin d'émission, c'est, vous le savez, la leçon de choses de Sophie Bobert qui est au programme chaque semaine. Et cette semaine, ce sera donc avec l'acteur Romain Duris qui parlera du dessin. Le dessin était une façon de dire non à qui? Eh bien, à ses parents, et vous saurez pourquoi. Donc, en fin d'émission, Clément Daté est à la technique aujourd'hui. Philippe Baudouin est à la réalisation, c'est avec lui et Avril Ventura que je prépare tous les numéros d'Être et Savoir.
L'héritage culturel, c'est tout cet ensemble de savoirs, d'aptitudes, d'attitudes, de manières que les enfants des familles cultivées reçoivent le plus souvent par osmose de leur famille. Nous observons en effet, dans toutes les recherches empiriques que nous pouvons faire, que les enfants ont à l'école des réussites très différentes selon leur milieu d'origine. En gros, on peut dire que leur réussite scolaire est d'autant plus forte que le niveau d'instruction de leurs parents est plus élevé. C'est dire que ce que l'école et aussi malheureusement les enfants eux-mêmes et leurs parents considèrent comme des dons intellectuels, ou plus exactement des dons de la nature, sont en réalité des dons de la société, c'est-à-dire un héritage social.
Et c'est bien entendu Pierre Bourdieu, auteur de La Distinction et des Héritiers, entre autres. Pierre Bourdieu, dont on entendait la voix à travers une archive, il était interviewé par Laure Adler. Bernard Lahire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon et membre senior de l'Institut universitaire de France. Pierre Bourdieu est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. À travers cet ouvrage collectif, Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants, publié au Seuil, il faut le préciser, donc en cette rentrée, c'est pas du tout votre premier livre de sociologie, ni même votre premier livre de sociologie de l'éducation, mais là, on revient un petit peu à ce que disait Pierre Bourdieu. Est-ce que c'est une forme d'approfondissement? d'exploration.
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, depuis les travaux de Bourdieu et Passeron, et beaucoup de collègues ont repris le même type de travail au cours des années qui ont suivi, dans les années 60, d'abord les héritiers, puis après la reproduction, la distinction, etc. Beaucoup de travaux se sont réalisés avec l'ambition de détailler en fait ce qu'il est en train de raconter dans cet extrait. Bourdieu, au départ, il a travaillé sur les étudiants. Donc, il prenait la fin de la trajectoire scolaire. Nous, on est allé au tout début, où même certains pensent qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est l'école maternelle. Nous, ce qu'on voulait, c'est montrer que les différences, qui sont des inégalités, en fait, se créent, se fabriquent dans les familles dès le départ.
Beaucoup de choses se sont passées à 5 ans. Alors on parle d'enfants privilégiés, on parle d'enfants en situation de grande pauvreté. Et puis au milieu, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires d'enfants qui sont racontées là, d'enfants des classes moyennes aussi, auxquels on va s'intéresser dans cet entretien, pour lequel je ne suis absolument pas seule. Il y a quelqu'un à côté de moi qui vous écoute extrêmement attentivement, Bernard Lahire. C'est Chloé Cormont, bonjour.
Bonjour Louise Touret.
Vous êtes écrivaine, romancière, professeure de français en collège à Bobigny. Vous avez animé beaucoup d'ateliers d'écriture. C'est très important aussi dans votre...
Oui, en fait, c'est ça qui m'a amenée, oui, à l'enseignement, d'abord.
Et puis, je voulais dire un mot de votre dernier ouvrage qui est paru en 2018, Midi, parce que c'est aussi une histoire d'enfance. Là, ce sont des enfants d'une dizaine d'années qui sont au cœur d'une histoire et d'un drame que je ne vais pas raconter là, mais je voulais vous dire que j'avais beaucoup aimé ce livre. Alors, on va revenir à l'écriture, parce que je l'ai dit dans l'introduction, Bernard Lahire, et ça a dû sûrement beaucoup intéresser Chloé. Ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage, c'est que la partie théorique et la partie récit étaient totalement séparées. C'est-à-dire, il y a de la théorie au début, il y en a à la fin, c'est long, c'est étayé, c'est détaillé. Mais quand on raconte la vie des enfants, c'est juste la vie des enfants. Il n'y a pas de notes de bas de page. On est embarqué dans leur vie.
Oui, c'est un choix vraiment fait dès le départ. Et l'idée que il faut jouer sur les langages très différents. Je pense qu'on ne peut pas faire que du narratif ou du descriptif. Il faut aussi faire du théorique. Mais si on ne fait que du théorique, bon, on déréalise d'une certaine façon les choses. Donc il faut jouer des différents types de langages. Et le but, dans les études de cas qu'on a publiées, donc 18 sur 35 études de cas réalisées et écrites, en réalité, donc ça a été terrible pour nous. On aurait pu arriver à 2400 pages sans aucun problème, puisqu'on avait 35 études de cas. Donc on a fait un choix très, très, très difficile. Mais le but, c'était d'avoir des études de cas écrites sans aucune référence effectivement théorique de bas de page, et en même temps je dirais qu'elles sont toutes théoriquement très construites, parce que tout ce qu'il y a, tout ce qu'on y lit dans ces études de cas a été le produit d'une sélection de questions, de domaines d'activité, etc. On a voulu que systématiquement on puisse comparer les enfants sur tous les domaines. Donc c'est extrêmement serré comme programme d'écriture, extrêmement contraint. Bon, quand on aime l'écriture à contrainte, on peut venir chez les sociologues, parce que là il y a des contraintes très très fortes. Il faut absolument qu'on puisse comparer les enfants. Et que du coup, voilà, c'est à la fois que narratif, donc je pense que c'est lisible par beaucoup plus de gens que nos chapitres d'analyse, qui reprennent de manière transversale l'ensemble des cas. Les 35 cas sont analysés avec des oppositions, en faisant apparaître...
Et c'est thématisé, hein, par exemple, les vêtements.
Oui. Ben oui, on a pris des domaines très très différents qui ont trait au corps, par exemple, corps, santé, alimentation, sport, etc. Mais il y a évidemment les loisirs, les pratiques culturelles, le langage, beaucoup, parce que c'est quelque chose qui est très, enfin, qui construit très très fortement les enfants, et dans le rapport à l'école, c'est évident. Puis le rapport à l'autorité aussi, qui est très important pour comprendre ce qui se passe dans les classes, les malentendus, dans les rapports entre les enseignants et les élèves. Voilà, donc on a vraiment voulu tenir compte de dimensions très différentes.
On va y revenir à ce rapport à l'autorité, parce que je trouve qu'en tant que parent, C'est extrêmement intéressant aussi à lire, mais toujours sur le dispositif d'écriture et ces récits. Chloé Cormand, qu'en avez-vous pensé, qu'avez-vous ressenti à la lecture de ce livre, à la fois comme lectrice, écrivaine et puis comme enseignante, peut-être ?
Alors, plein de choses, hein, parce que moi, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup émue. D'abord, par sa rareté. En fait, l'enfance est rare comme objet d'histoire, elle est rare comme objet de sciences humaines, elle est affectée à un domaine peut-être féminin, peut-être minoritaire, mais en tout cas, pour vous donner un exemple, récemment, je cherchais des livres sur l'acquisition du langage, sur le développement du langage chez les enfants. On trouve des choses soit très pointues, soit des guides de comportement pour les parents, mais trouver quelque chose d'un peu vernaculaire comme ça, c'est rare. Voilà. Donc l'enfance, alors que moi, ça m'intéresse énormément comme écrivain. Depuis mon premier livre, je fais des personnages d'enfants et d'adolescents, mais des personnages dans toutes les dimensions existentielles, dans leur rapport à la mort, à l'expression. Et donc trouver une source comme ça, par des sociologues, c'est une rareté et c'est un bonheur. Et alors à la lecture, j'ai ressenti beaucoup de joie, beaucoup de malice. J'ai trouvé ça formidable. D'abord, c'est un jeu de la sociologie, mais il y a une espèce de justice poétique dans ce que vous dites, parce que dans ce que tous ces chercheurs exposent, parce que finalement, enfin c'est le côté diabolique aussi un peu de la sociologie, mais qu'on soit chez les très riches ou chez les plus pauvres, on est dans un tel jeu de déterminisme que ça, il y a une part d'égalité au sens de être déterminé. Ça, tout le monde là-dessus,
oui,
voilà.
Oui.
Et ça, bon, parfois ça m'a fait sourire. Hein, par exemple, on se reconnaît forcément quelque part hein, sur les vêtements. Moi, j'étais exactement dans une certaine catégorie un peu bourgeoise, un peu intellectuelle pour la façon d'habiller mon fils. C'était cadré, quoi. Et puis, en même temps, tout était listé dans ma façon de me comporter. Mais après, il y a aussi toutes les brèches. Et ça, c'est aussi dû à ce que vous avez décrit, Louise, de choix d'écriture, qui fait que il y a des choses qui sont distribuées entre les classes sociales et qui peuvent jouer. Par exemple, le temps de disponibilité des parents avec leurs enfants, et heureusement, en fait, il n'est pas dépendant, indexé forcément sur la catégorie sociale. La façon dont les parents se parlent entre eux, ça c'est une présence du langage, qu'il y ait de la... Enfin, je sais pas, ce qu'on peut capter de tendresse, de richesse dans cette adresse. Et donc, il y a plein de choses comme ça, en fait, qui sont en fraude ou en douce par rapport à la réalité sociale, et qui agissent aussi ensuite sur le devenir de l'enfant. Et ça, c'est très agréable de voir ça. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des choses qui sont accablantes dans le fait que l'enfant qui dort dans une voiture et dont les parents parlent pas français, il a évidemment moins de chances de réussir à l'école que celui qui vit dans un quartier bourgeois, qui a ses activités organisées le mercredi après-midi et qui est bien vêtu et dont les parents ont pas peur de l'autorité. Mais en même temps, il y a aussi d'autres choses qui passent, qui sont non sociologiques.
Ouais. C'est la petite Balkis qui dort dans la voiture de son père. Ce ne sont pas leurs vrais prénoms, c'est des équivalents de prénoms. C'est comme ça qu'on procède dans la sociologie. Chloé Cormand a parlé d'autorité. L'autorité, elle est très présente à la fois dans la façon dont elle est maniée à l'intérieur des familles. Elle est maniée avec, par exemple, de l'ironie chez certains, ça c'est chez les parents intellectuels, d'ailleurs qui n'ont pas des enfants obéissants du tout et qui disent que c'est difficile pour eux, donc c'est assez drôle. Elle est difficile à manier pour des parents en grande précarité. Elle est maniée de manière extrêmement dure par des parents très déterminés qui veulent progresser dans la société et qui sont animés d'ambitions extrêmement fortes, en tout cas pour le devenir scolaire de leur enfant. Et puis cette autorité, c'est aussi celle que les institutions exercent ou non sur les familles, les parents et les enfants à travers les parents, Bernard Laïr.
Le rapport à l'obéissance, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que il faut un minimum d'obéissance et je dirais même de docilité pour réussir scolairement. Et il faut être lucide là-dessus. C'est-à-dire que les enfants, les parents de milieu, classe moyenne et classe supérieure livrent des enfants globalement assez pacifique à l'intérieur d'un espace comme l'espace scolaire. Et il livre surtout des enfants qui ont un rapport à l'autorité déjà, on va dire, intériorisé, avec un autocontrôle qui est très très fort. C'est-à-dire qu'on les a habitués à d'abord comprendre pourquoi on n'a pas le droit de faire ceci ou cela. Donc on joue sur leur compréhension de la situation. Tu n'as pas le droit pour telle et telle raison. Il y a des règles, il y a des consignes, et toute action dans la vie quotidienne donne l'occasion de développer ce genre de choses, y compris dans les jeux pédagogiques. Il y a des consignes, on respecte les règles, on lit les règles, etc. Autant de choses qu'on fait à l'école.
Donc, les jeux de société, qui passage, sont pratiqués en famille.
Absolument. Les jeux pédagogiques fait à la maison, c'est une préparation directe de plein de situations scolaires. Et donc, tout ce rapport à la règle, quand il est intériorisé, quand ça repose sur de l'autocontrôle, même les parents qui disent effectivement que chez eux, leurs enfants sont un peu pénibles, les enseignants peuvent dire « Ah non, mais ils sont d'une grande gentillesse quand ils sont dans l'espace scolaire. » Donc, ça veut dire qu'ils ont intériorisé les choses, et quand ils se retrouvent dans un espace extérieur à la famille, ils savent tout à fait bien se comporter, être les bons élèves et du coup être dans les meilleures conditions pour apprendre, pour écouter ce qu'on leur demande de faire, etc.
Parce qu'il y a quelque chose de très subtil qui se joue, selon moi, hein, c'est ma lecture, par rapport à cette question de l'autorité et de la place qu'on peut avoir, soit en tant qu'enfant face à des adultes, soit en tant qu'adulte face aux institutions. C'est-à-dire que on peut obéir avec énormément de docilité, accompagné de crainte, et puis on peut se conformer à des normes parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on fait, tout en n'en pensant pas moins. C'est pas du tout la même manière de se positionner, et ça ne produit pas du tout les mêmes effets sur les enfants. Alors, je vais être encore plus claire. On a le cas de la petite Annabelle qui fait partie d'une classe moyenne plutôt modeste, dont on voit que la mère est plutôt dans la crainte et dans une forme de peur vis-à-vis de l'avenir, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, pour Valentine ou pour Lucie. Les enfants les plus privilégiés, dont les parents se conforment, mais avec beaucoup plus de distance.
Oui, mais parce qu'ils sont beaucoup plus sûrs d'eux. Ils sont dans une position supérieure, et quand vous êtes très sûr de votre statut, vous pouvez être beaucoup moins tendu scolairement. Et d'ailleurs, on sait très bien que les parents qui ont les plus grands capitaux scolaires ne sont pas ceux qui mettent la pression directe la plus forte. La pression, elle est là, présente, omniprésente, par la sursaturation dans l'espace familial, des amis, etc., d'un très haut niveau de diplôme. Quand vous êtes d'une famille de normaliens ou de centraliens ou de polytechniciens, etc., il est évident que vous n'allez pas aller faire une fac de sociaux ou je sais pas quoi.
Qui s'exprime au micro actuellement.
Mais je suis lucide sur le statut de ma discipline à l'université. Et c'est, voilà, donc là où pour certains c'est une vraie conquête. Moi, quand je suis rentré en sociologie, je trouvais comme enfant d'ouvrier que c'était formidable et que j'avais réussi ma vie. Et alors que d'autres étaient là avec des parents qui auraient préféré qu'ils soient en classe prépa, alors qu'ils étaient en DUG de sociaux à l'époque. Bon, voilà, tout ça, on n'a pas les mêmes exigences. Et du coup, quand on est dans des familles à très hauts capitaux scolaires, souvent, voilà, la pression n'est pas terrible par rapport aux enfants pendant très longtemps. Il y a même des milieux qui mettent très très peu de pression à leurs enfants. Des milieux, dans les milieux médicaux, par exemple, on peut avoir des enfants qui échouent pendant très longtemps à l'école, qui sont très moyens, qui sont pas bons du tout jusqu'en terminale. Et puis après, quand il faut faire l'effort et réussir le concours, ils réussissent. Et ça fait des futurs médecins. Donc vous voyez, c'est très compliqué, ces histoires-là.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW la monnaie? Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est cash et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar? Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'est des Noëls ensoleillés? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frères à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile?
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Je peux rien faire, je peux rien faire. Spectateur du désespoir. Je peux rien faire, je peux rien faire. Spectateur du désespoir.
Comme Issa, pourquoi je suis pas né là-bas?
Personne ne joue avec les mêmes cartes. I Am, la chanson s'appelle en vrai. Né sous la même étoile, l'école du micro d'argent, ça a 22 ans, me faisait remarquer Philippe Baudouin, notre réalisateur. C'est un peu, personne ne joue avec les mêmes cartes, c'est un peu ce que raconte aussi de manière beaucoup plus détaillée l'ouvrage Enfance de classe dont nous parlons aujourd'hui, de l'inégalité parmi les enfants. Ouvrage publié au Seuil sous la direction de Bernard Lahire. Et on en parle aussi avec Chloé Cormont qui est à la fois enseignante, qui a animé des ateliers d'écriture, ce dont on va parler, et évidemment écrivaine et autrice. Et je me suis demandé, puisque on voit ces enfants arriver à l'école et les professeurs des écoles en parlent dans le livre avec des cartes différentes, comment on peut essayer quand on a à cœur de le faire, et je sais que ça vous intéresse, Chloé Cormont, de rebattre ces cartes?
Alors, moi, d'abord, je travaille avec des enfants qui n'ont pas beaucoup de cartes, hein, a priori. J'ai fait des ateliers d'écriture à La Courneuve, j'enseigne à Bobigny, pour le dire vite, sur les marqueurs comme ça qu'on peut identifier. Prenons la catégorie des vêtements. J'ai des élèves qui arrivent l'hiver en classe avec des couvertures sur les épaules parce qu'elles n'ont pas de manteau assez chaud. C'est des endroits où on ne trouve pas d'orthophoniste ou de psychiatre en cas de gros problèmes. C'est des endroits où on sait que la discrimination va peser beaucoup pour le futur d'études possibles, choix professionnels. Donc pas beaucoup de cartes, mais l'atelier d'écriture, je pense que ça permet de quand même de redistribuer, d'être dans une relation d'égalité qui est très forte. Au fond, les mots, le langage, il est omniprésent. Il semble courir comme l'eau et comme l'air, devoir être absolument disponible pour tout le monde. Mais chacun constate qu'on est inégaux dans sa maîtrise. Et ça peut être ça peut creuser une brèche psychologique, un sentiment d'injustice très puissant chez chacun. Ce truc de se dire, c'est un supplice de Tantale, quoi. De se dire, c'est là, j'y ai droit, c'est gratuit, mais je ne peux pas m'en servir. Et donc savoir s'exprimer, arriver là comme écrivain dans une classe d'enfants pauvres, il faut quand même avoir ça en tête.
Ça m'évoque quelque chose dans le livre, et sur les premiers chapitres, les enfants dont les parents parlent mal le français, vous avez choisi, je pense que c'est une décision collective, Bernard Lahire, de retranscrire les accents, et tout au long du livre, les manières de parler, y compris l'ironie, sont retranscrits avec beaucoup de soin. D'abord, comment ça se passe pour écrire comme ça, que les gens ont ce petit rire ironique, ou pour essayer de retranscrire un accent étranger, alors, il y a plusieurs accents dans le livre, oui, de quelqu'un qui s'exprime mal en français.
Ouais. C'est très délicat, parce que beaucoup de sociologues pensent qu'il vaut mieux réécrire les propos des enquêtés, parce que sinon ça donne le sentiment qu'on peut les mépriser ou qu'on peut ne pas faire la différence entre l'oral et l'écrit. On passe à l'écrit, donc il faudrait autre chose. Et moi, je crois que c'est un mauvais débat, parce que les inégalités, les différences se jouent dans le langage, et qu'il faut savoir que la violence du monde, c'est que les mamans ou les papas qu'on a enquêtés en milieu populaire, qui parlent pas très bien le français, parce que parfois ils viennent d'une autre culture, qui maîtrisent d'autres langues, ils parlent comme ça, et c'est comme ça qu'ils sont jugés. Ils sont jugés dès qu'ils vont à un guichet d'une administration. Ils sont écoutés comme ça. Ils sont écoutés par d'autres parents comme ça. Et ça joue beaucoup. Ça joue aussi dans la transmission des manières de parler auprès de leurs enfants. Ils aident objectivement moins leurs enfants à rentrer dans la langue française, du fait qu'ils ne maîtrisent pas très bien la langue, et que, redoublé par un faible niveau d'instruction, y a exactement le même problème que pour les milieux populaires français nés en France depuis plusieurs générations, etc. C'est qu'il y a aussi une pratique populaire de la langue qui n'est pas la pratique qui est attendue à l'école. Bon. Donc tout ça, se cumulant, il faut qu'on le donne à lire, puisqu'on ne peut plus le donner à entendre. Il faudrait inventer des livres avec des clics possibles pour entendre ce que les gens disent, la manière dont ils le disent. Mais on sait que c'est difficile, dans certains cas, de comprendre certains parents, et que ça fait partie de leur condition d'existence, ces enfants, d'entendre des parents qui ne parlent pas bien le français, comme on dit. Donc c'est terrible, mais il faut arriver à restituer ça. Sinon, on moyennise, on fait comme si. Alors moi, je pense que le mépris, il est plus dans le fait que on va pas les faire parler comme ça, parce que
c'est... J'ai pas parlé de mépris. Hein.
Non, pas du tout. Mais je parlais pas de vous, mais il y a, je pense qu'il y a des collègues qui, on a eu des débats parfois autour de ça.
C'est intéressant.
Et on peut penser que c'est un mépris qu'on leur fait de faire ça, alors que moi, je pense que le mépris, il est à l'inverse.
Ce serait d'euphémiser.
Ben oui, si je commence à les faire parler comme des parents de classe moyenne qui parlent correctement, etc. Mais même les parents de classe moyenne ne parlent pas correctement, en fait. Et nous, on n'a pas mieux traité les parents de classe moyenne ou de classe supérieure. Quand ils parlent pas très bien, ils parlent comme ça. On n'a pas retravaillé leurs propos. Mais on voit au moins la différence entre les types de registres langagiers, de vocabulaire, de prononciation des mots. Quand on sait que la prononciation des mots, très techniquement, il y a des études qui montrent que plus vous prononcez correctement les mots, plus vous aidez vos enfants à rentrer après dans la lecture. Parce que savoir déchiffrer de la chaîne sonore, c'est déjà avoir la possibilité de prononcer correctement les mots. Et c'est pour ça que les orthophonistes existent, et qu'ils viennent rattraper cet apprentissage. Alors, qui n'a pas été fait.
Pas seulement pour l'orthophonie, évidemment. Oui. Chloé Cormand, vous leviez la main.
Ça fait écho à des questions que je peux me poser quand j'enseigne l'écriture. Parce que dans quelle mesure il faut une éthique, en fait, de la façon dont on reçoit les productions, les textes écrits par les jeunes auteurs. Dans quelle mesure je corrige? Alors là, il y a une espèce de justice, comme c'est un exercice littéraire, s'il y a de l'incorrection. En fait, moi, j'ai une ligne directrice qui est « je retouche le moins possible ». Aussi, en fait, c'est assez cohérent avec ce que vous disiez. Et en plus, ça a d'autant plus un intérêt dans une œuvre littéraire, puisque, en fait, l'incorrection dans le verbe, parfois, elle est plus intéressante, c'est-à-dire que on connaît tous les paroles gelées, c'est-à-dire des phrases qui vont être parfaitement correctes et parfaitement inintéressantes, parfaitement fermées du point de vue du sens, du point de vue de la sensibilité. Les incorrections qui émanent de l'expression de ces jeunes auteurs, souvent, elles donnent du relief, elles rendent quelque chose de vif. Après, il faut juste que j'ai une espèce de pondération, enfin de correctif, c'est-à-dire que s'il y a des erreurs de grammaire, de syntaxe qui ridiculisent le propos, qui vont amener à, où je sens, où je peux le vérifier dans le dialogue ensuite, en vérifiant avec l'auteur, que ça dit pas ce qu'il voulait dire. Il a dit quelque chose à ses dépens, contre sa pensée. Dans ce cas-là, je l'amène à corriger. Mais il faut effectivement une éthique qui ait un maximum de liberté, mais pas jusqu'à se nuire à, aux propos hein, qu'on avait l'intention de dire.
Je pense que la question de la transcription, plus ou moins fidèle, dépend du projet. Ça n'a aucun intérêt de reprendre verbatim avec exactement les hésitations, les rires, etc. Quand c'est, par exemple, un informateur qu'on a, ça n'aurait aucun sens et moi-même je ne le fais pas. En revanche, effectivement, quand on veut comparer les enfants et que l'enjeu c'est de montrer qu'il y a des enfants qui parlent très très bien, qui parlent comme on dit de temps en temps comme des livres, et que à côté d'eux il y en a qui ne sont pas de la même façon dans le langage, ça crée des différences, ce sont des inégalités, et c'est là où c'est pour nous important de souligner ces différences là pour montrer que voilà, les enfants ne sont pas dans la même situation à l'égard de l'école.
Et de l'école, on en parle dans ce livre, et des professeurs des écoles aussi qui sont interrogés. L'école qui a un rôle tout à fait ambivalent, je pense, tel qu'il est décrit, à la fois de protection pour les enfants qui courent de véritables dangers de par leurs conditions de vie extrêmement précaires. On a parlé de Balkis qui vivait dans sa voiture, et là l'école s'est mobilisée, mais c'est pas le seul cas dans le livre, pour l'aider à trouver un logement, elle et sa famille. Et en même temps, de la part des enseignants, il y a souvent une forme de jugement, à la fois envers les enfants, mais aussi envers les familles. Bernard Laïr.
Oui, moi je ne leur jetterai pas la pierre, en fait.
D'une certaine façon, mais vous l'avez retranscrit, parce que c'est dans ce livre qu'on lit ce jugement. Ce n'est pas une affirmation que je fais pour toute la vie, c'est dans le livre.
C'est la réalité. Moi je me mets à la place des enseignants. D'ailleurs, c'est ce que fait le sociologue en permanence. Il se met à la place des acteurs sociaux en essayant de se dire, bon, si j'étais à la place, voilà, est-ce que je serais meilleur que ça? Est-ce que voilà. Bon, généralement, on comprend qu'en étant à la place d'un enseignant, on n'a pas trop le choix au départ de faire et de dire ce qu'ils font. Alors là, dans le faire et le dire, il y a le jugement à l'égard des familles qui parfois est terrible. Mais ça fait très longtemps. Moi, j'avais travaillé sur des questions de réussite et d'échec scolaire en milieu populaire, dans un livre qui s'appelait Tableau de famille. Et à l'époque, ce qui était important dans les discours publics, c'était la démission parentale. Et j'avais parlé du mythe de la démission parentale, parce que moi, quand j'allais voir les familles, je voyais toutes les familles qui étaient jugées par les enseignants comme ne s'intéressant pas à l'éducation de leurs enfants, ne venant jamais à l'école, etc. En fait, il y avait une sorte d'injustice interprétative par rapport à la situation des parents, parce que c'était des parents hyper occupés, il y avait des mères qui pouvaient pas y aller parce qu'elles faisaient des heures de ménage, aux heures de réunion, etc., etc. Donc là, quand on renvoie ça aux enseignants, là, ils se rendent compte, ils sont un petit peu... Ils sont déstabilisés en disant « Ah bah oui, j'ai un peu trop présupposé ». Et je pense que le gros problème, c'est la formation des enseignants. Parce que tout le travail des sociologues, des sciences de l'éducation, etc., pourrait donner une image de ces milieux, de tout ce qui pèse sur eux, du fait qu'ils ont tous envie. Moi, je n'ai pas rencontré une seule famille dans toutes mes enquêtes en sociologie de l'éducation, en milieu populaire, qui dirait « moi je m'en fous de l'école ». Ils ont tous compris que l'école c'était important, et ils sont dans la délégation la plupart du temps. C'est-à-dire, ils disent « moi j'y comprends rien, mais bon voilà, aux enseignants à faire du mieux, moi de toute façon je peux même pas aller à la réunion, ou bien j'ai peur d'aller à l'école ». Enfin, il y a plein de difficultés dans le rapport à l'école, mais ça ne veut pas dire que les parents s'en fichent. Et donc les enseignants, eux, voyant des élèves pas en bonne situation scolaire et ne voyant pas leurs parents, en déduisent immédiatement que les enfants sont mauvais, les parents ne viennent pas, donc ils s'en fichent. C'est quasi mathématique. Et on peut comprendre qu'ils aient ce type de réaction. Mais évidemment, c'est pas la réalité des faits. Et c'est ça qu'on veut leur dire. On veut dire avec beaucoup de bienveillance aux enseignants, non, ils sont pas comme ça, les parents. Les parents voudraient, mais ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas la bonne histoire, ils n'ont pas les capitaux et les bonnes cartes, comme on disait tout à l'heure. Voilà, c'est ça qu'on essaye de transmettre aux enseignants, pour le coup.
Et puis, dans ce livre, il y a aussi des parents qui vont avoir, vis-à-vis de l'école, des jugements, qui vont faire aussi des choix scolaires qui sont extrêmement pensée. Je pense aux parents de l'enfant qu'on appelle Mathilde dans ce livre, qui sont très, très exigeants vis-à-vis de leurs enfants, mais aussi vis-à-vis des institutions qui les éduquent.
Ben, oui, parce qu'ils sont très tendus sur les enjeux scolaires. Et on voit bien qu'à 5 ans, la lutte a commencé, la compétition a commencé depuis bien longtemps. Et c'est une maman qui retéléphone à l'enquêtrice pour lui dire « Ah, nous avons fait tester le plus petit, le garçon, il est intellectuellement précoce et je pense que ma fille, donc Mathilde, est sans doute aussi intellectuellement précoce, il voudrait les mettre dans l'école privée, ils ont pas pu parce que c'est des petites, c'est le haut des classes moyennes ou le bas des classes supérieures. On a eu du mal à les classer parce qu'ils sont vraiment à la frontière des deux classes et on voit que c'est des gens qui n'avaient pas suffisamment d'argent pour aller dans les quartiers les plus chics où ils auraient réglé le problème parce que l'école publique du coin aurait été impeccable. Et donc ils se retrouvent là à vouloir marquer absolument l'écart par rapport à des milieux populaires qui sont dans les mêmes classes qu'eux ou des plus petites classes moyennes qu'eux. Et donc il y a cette tension chez les parents qui veulent le mieux pour leur enfant, mais qui du coup sont extrêmement rigides et voilà, rigoureux ou rigides selon les cas.
Ah, très très rigide. Hein. De notre point de vue, Avril Ventura et moi-même, on a lu ce passage, ce chapitre avec beaucoup d'intérêt. Comment avez-vous composé ce panel et fait ce choix ? Parce que dans les familles représentées, il y a aussi des familles homoparentales, il y a une famille d'agriculteurs, et là on voit que l'héritage est extrêmement important, un héritage aussi de valeurs, du travail, de la ferme familiale tout simplement, qui est censé être hérité. Comment avez-vous composé ce tableau qui est aussi un peu un tableau de la France?
Oui, alors on avait déjà, c'est un travail collectif, donc on pouvait s'appuyer sur des territoires très différents. Hein. On a des collègues qui sont de Toulouse, de Poitiers, de Paris, de Lyon, de Grenoble. Voilà, bon, on est sur des territoires très différents. Et puis on avait des principes de choix. Bon, on voulait les trois grandes classes sociales, on voulait faire varier à l'intérieur de ces classes sociales parce qu'on sait que c'est pas la même chose d'avoir beaucoup de capital culturel comme les parents de Lucie ou beaucoup de capital économique comme les parents de Matisse ou beaucoup de capital culturel et beaucoup de capital économique comme les parents de Valentine.
C'est le dernier cas.
Voilà, donc on essaye de faire varier le plus possible et puis on voulait faire varier aussi rural-urbain parce que ça nous paraissait important que souvent, on oublie un peu la France agricole, donc on voulait des cas aussi d'agriculteurs, enfin d'enfants d'agriculteurs. Et donc voilà, on a essayé de faire varier le plus possible, mais c'était des fractions de classe au départ qui nous guidaient. Parce que on a des données statistiques sur les styles de vie, les conditions de vie, selon les fractions de classe dans lesquelles on se trouve.
Alors, tout ce qui tourne autour du bon et du mauvais goût, qui est très présent dès qu'on aborde les classes moyennes. Pourquoi avoir choisi d'en parler autant? Moi, je pense que c'est très important dans l'éducation, mais c'est vrai que dans les livres de sociologie, en tout cas de sociologie de l'éducation, on n'en parle pas tellement de si on met des jupes, des pantalons, de comment on se coupe les cheveux, qu'est-ce qu'on offre comme type de jouet, enfin le goût.
Ben alors là, c'est du Pierre Bourdieu sur les enfants. C'est-à-dire que Bourdieu a montré les stratégies de distinction alors sur des adultes qui choisissent tel type de voiture plutôt que telle autre, tel type de boisson plutôt qu'une autre.
Mais ça marche aussi en allant acheter les cadeaux de Noël.
Mais oui,
vraiment à plein.
Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est-à-dire que en fait, c'est ça que on ne se rend pas compte la plupart du temps quand on n'est pas en permanence plongé dans la culture sociologique, ce qui est quand même le cas de la grande majorité des Français. C'est que les stratégies de distinction ou les différences sociales se jouent dans le détail, en permanence, surtout. Et par exemple, des mamans qui veillent à ce que leur fille ne soit pas habillée fifille, comme elles disent. C'est un enjeu très important.
Et d'autres qui assortissent les chaussettes à chaque petit pull, parce que c'est très important aussi pour elles.
Il y a des stratégies à chaque fois de distinctions très différentes. C'est-à-dire que ça va se jouer par avec une coiffure très particulière en milieu populaire pour pas avoir des coiffures ordinaires. Ça va se jouer par le fait que c'est une fille et donc on va pas la rendre plus dominée que voilà. Donc on fait très attention à ne pas faire une socialisation de genre très marquée. Mais il y a aussi des stratégies pour les rendre extrêmement chic et féminines aussi. Et donc tout ça est très contradictoire et ça parle de l'époque et de toutes les difficultés qu'il y a autour de ces questions de genre et problématiques, la manière d'être une femme, etc. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est des stratégies de distinction par rapport à des milieux qui sont légèrement en dessous ou au-dessus, qui nous font rêver, ou bien d'autres qu'on veut maintenir à distance, etc. C'est tout ça qui se joue.
En lisant ce livre, Bernard Lahire, j'ai pensé à un autre ouvrage. C'est un roman, ça a rien et tout à voir avec votre essai collectif. Ça s'appelle « Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu était interviewé il y a à peu près un an par Marie Richeux et il parlait bien de littérature et ça va vous intéresser.
La lecture, c'est compliqué parce que c'est à la fois c'est comme trouver un passage à travers la banquise. On voit bien que la lecture, elle m'a mené vers un en dehors de mon milieu, c'est sûr. C'est que j'ai commencé à voir qu'il y avait d'autres choses qui existaient, à avoir les outils pour juger de l'endroit où j'étais, et puis à avoir des envies d'échapper belle. Puis après, il y a eu des lectures vraiment émancipatrices. C'est-à-dire que quand on lit Bourdieu ou Annie Ernaux, qu'on a ce sentiment de mais oui, il n'y a pas de raison d'avoir honte en fait. Quand des lectures, elles nous servent à vaincre des complexes, à déconstruire des soumissions, à surmonter des hantises. Enfin voilà, les livres, c'est comme des grenades, elles vous feraient un chemin.
Les livres, c'est comme des grenades. Nicolas Mathieu, évidemment, prix Goncourt 2018. On doit le rappeler pour leurs enfants après eux. Chloé Cormand, vous êtes aussi écrivaine. Qu'est-ce que ça vous évoque?
C'est une question de livres et d'histoires qui peuvent être disponibles. Et aussi de pouvoir lire en se disant que même si c'est très virtuel, on peut être celui qui raconte des histoires. Et ça, c'est des choses qui se sentent même dans le... Il y a quelque chose de très beau dans les portraits d'enfants. Chaque portrait d'enfant se clôt par ce que vous avez appelé un exercice langagier. Vous avez demandé à chaque enfant le même exercice. Tout simple, il y en a un avec... l'enfant doit décrire une image où on confectionne une tarte aux pommes et une fois une glosse de dessin animé. Et on voit comment chaque enfant a... une marge de liberté par rapport au langage qui est encore une fois pas indexée forcément sur sa condition sociale. Elle est aussi liée à une liberté. Enfin, je pense par exemple au petit enfant d'agriculteur. Et ben, il a un monde. Il m'a appris des mots. Je savais pas que l'endroit où il y avait les mères vaches, on disait la maternité. Il a un univers. Il faut pas juste qu'il y ait un monde. Il faut que la façon dont ses parents lui parlent donne accès au vocabulaire pour dire ce monde. Et du coup, quand il raconte sa journée, c'est plus intéressant que d'autres qui ont quelque chose de très verrouillé, très systématique. Il y a des enfants qui basculent au passé simple ou dans « il était une fois » pour gloser le dessin animé. Et ça, c'est une liberté d'esprit tout d'un coup qui surprend. Et moi, ouais, ça m'a plu, quoi. Il y a ceux qui tout d'un coup questionnent l'enquêteur, qui se sentent en position de devenir eux-mêmes. Oui, tu connais un tel ou...
Ce sont plutôt les enfants de milieu classe sup qui font ça.
Ou intermédiaire, ouais. Je pense au petit Alexei qui avait...
Oui.
Il est éduqué avec beaucoup d'esprit critique par sa mère et c'est quelque chose qui me semble faire une énorme différence à capital social plus ou moins équivalent. Je ne sais pas si c'est du capital culturel pur, mais en tout cas, c'est une forme aussi de résistance sociale et aussi d'éducation, tout simplement. Il y a quelque chose sur lequel vous revenez à chaque fois, hein, Bernard Lahire, c'est la présence de livres aussi dans l'univers des enfants.
C'est très très important parce que c'est il y a où il n'y a pas de livres, il y a où il n'y a pas d'abonnement à des revues, magazines, etc. Et puis après, quand il y a des illustrés, quand il y a des imprimés, etc., vous avez des manières de faire avec ce qui existe très très différentes. Bon, évidemment, il y a des parents qui mettent des ouvrages dans leur environnement, mais qui ne lisent pas eux-mêmes. Et cette absence de pratique de lecture chez les parents parle presque plus fort que l'injonction à lire, éventuellement. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Hein. On sait par les grandes enquêtes statistiques qu'il vaut mieux avoir des parents qui n'embêtent pas les enfants avec « il faut lire », mais qui lisent eux-mêmes, plutôt que des parents qui ne lisent pas et qui disent à leurs enfants « il faut absolument que tu lises, c'est très important pour l'école, pour tout ce que tu veux, etc. » Donc, il y a des choses qui se jouent. Au fond aussi, ce qu'on découvre à travers nos enquêtes, c'est que la socialisation, la grande partie de ce qui se joue n'est pas très conscient, en fait, n'est pas très explicite.
Mais d'ailleurs,
ça se joue très très bas, comme une ligne.
D'ailleurs, c'est assez surprenant de voir le manque de recul des adultes qui décrivent très très bien ce qu'ils font. Hein. Ils parlent assez facilement, même dans les milieux populaires, de la manière dont ils cherchent à éduquer leurs enfants. Par contre, je trouve que, ou en tout cas, ce n'est pas donné à entendre, il n'y a pas une énorme réflexivité, et même dans les milieux les plus aisés, sur la manière dont ils cherchent à se situer dans l'échelle sociale, à se distinguer. Je reviens à ce mot, c'est très fort. Je l'ai cité tout de suite en parlant de Bourdieu, et pourtant, souvent, ce n'est pas ce livre-là qu'on cite en premier. À se distinguer, et pour vous, c'est pourtant majeur.
Oui, mais parce qu'ils ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils font. Enfin, je pense que s'il y a une chose que nous apprennent les sciences sociales, c'est qu'on est très peu conscient de ce que nous sommes, et quand on nous apprend des choses sur nous-mêmes, on est les premiers étonnés. Et moi qui travaille sur des rêves depuis quelques années maintenant, je sais très bien que les gens se lèvent le matin en sachant pas du tout ce qu'ils ont fait pendant la nuit quand ils rêvaient. Donc, vous voyez, on est capable de produire des choses dont on ne sait pas du tout comment elles fonctionnent, pourquoi on pense ci, on fait ça. Et donc, les parents avec leurs enfants, c'est pareil. Il y a même des parents qui sont pas très lucides, hein, qui peuvent dire « Oh, nous, on sort pas beaucoup, en fait, on n'a pas beaucoup de sorties culturelles », alors que ils sont au top des sorties culturelles parmi les parents. Mais ils ont l'impression de ne pas en faire tant que ça, de pas... Voilà, donc ils n'ont pas de comparaison. Au fond, ils n'ont pas de point de comparaison. Donc ils n'ont pas toujours conscience de ce qui les distingue des autres non plus. Hein.
Vous l'avez dit, vous avez travaillé sur les rêves et la psychanalyse. Oui. Quand on fait une psychanalyse, on parle beaucoup de sa petite enfance, de sa prime enfance. Est-ce que vous avez pensé à ce travail-là sur la psychanalyse et les rêves en faisant celui sur ses enfants de 5 ans?
Ah ben, c'est vrai que dans mon esprit, ce serait vraiment super que j'arrive à travailler sur des rêves d'enfants, parce que c'est les rêves les moins travaillés. Freud en parlait en disant que c'est là où on a des choses très très directes, hein, des enfants à qui on a refusé de manger, je sais pas, des cerises dans la journée parce qu'ils avaient mal au ventre. Hop, on les voit rêver de manger un panier de cerises entier la nuit. Donc les choses sont plus directes, et en même temps, on voit que les récits de rêve dépendent du capital langagier. Donc voilà, c'est la capacité à raconter son rêve fait partie de la possibilité d'interpréter un rêve. Donc c'est très compliqué, ces histoires, mais je trouve ça assez passionnant. Oui.
Dernière question, Bernard Lahire, c'est bientôt Noël et on a vu passer une boîte de jeux dans l'équipe, ça a retenu notre attention, c'est un jeu qui s'appelle Capital avec un K, comme le capital de Marx, mais c'est un jeu de d'autres sociologues, vos collègues, Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, et donc cette boîte de jeux se propose de faire découvrir la lutte des classes aux gens qui vont jouer, alors peut-être pas seulement des enfants, mais la question que je voulais vous poser plus sérieusement, c'est peut-être que ce jeu est très sérieux d'ailleurs, c'est est-ce qu'il faut parler de ces différences de classe aux enfants ou aux élèves, parce que c'est une question que se posent des enseignants. Est-ce qu'il faut leur dire vous ne partez pas avec les mêmes chances, vous êtes conditionnés par vos origines sociales, ça pèse très lourd, et ça risque de peser très lourd dans votre destin. À quel âge on peut en parler ?
Évidemment que si vous dites ça comme ça à des enfants, il y a un effet prédictif, c'est performatif, comme on dit. C'est-à-dire si vous dites à des gens, étant donné ton milieu, tu ne réussiras pas, évidemment que c'est une façon de l'enterrer immédiatement. Ceci dit, moi je pense que plus généralement, il faudrait que les sciences sociales soient enseignées au collège et même à l'école primaire. C'est une des propositions que je fais depuis très très longtemps maintenant. Pas pour créer un choc violent sur les enfants, mais les habituer à observer ce qu'il y a autour d'eux, à regarder les différences entre les filles, les garçons, selon les cultures, selon les groupes sociaux, etc. Ça me paraîtrait plus utile que l'instruction civique ou morale, ou etc. Voilà, donc je pense que ce serait important, voilà. Mais pas dans la version fataliste et en leur disant voilà, tu n'as aucune chance étant donné le lieu d'où tu viens, quoi.
Il n'y a pas de défenseur de l'instruction civique et morale pour vous répondre, mais peut-être que l'un n'exclut pas l'autre. Mais
j'attends leur réaction.
Comment, en un mot, sur est-ce qu'il faut en parler pour vous, aux jeunes gens, aux adolescents, par exemple, de ces différences sociales?
Moi, je pense qu'il faut en parler parce que, en fait, ils le sentent. Et moi, je suis toujours pour mettre des mots sur les choses qui peuvent peser de façon invisible comme ça. Je pense que c'est toujours mieux. Et alors, il faut peut-être trouver des mots, effectivement, qui ne soient pas accablants. Mais je pense à cet élève avec qui on visitait une expo sur... je résume le propos, mais sur les femmes noires américaines, Black Dolls, à la Maison Rouge. Et elle s'est tournée vers la conférencière et elle a dit... est-ce qu'il y a beaucoup de noirs dans l'équipe des conférencières? Et évidemment, la question était non. Mais c'était quand même un regard très malicieux hein, qui était posé de la part de cet élève. Et moi, je suis pour verbaliser ces choses-là. Pas pour s'y soumettre, mais justement pour les questionner.
Merci beaucoup à tous les deux. Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants, c'est publié au Seuil. De vous, Chloé Cormand, on peut lire Midi, c'est au Seuil également, mais c'est un hasard. Et vous avez un ouvrage à paraître le 9 janvier. Tu ressembles à une juive, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Dans un instant, la leçon de choses de Sophie Bobert.
Tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant. Si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent, si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore. Quand tu auras mon âge, ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants.
Avoir des parents artistes, est-ce plus facile pour montrer ses propres productions artistiques? Eh bien, pas forcément, a raconté Romain Duris à Sophie Bobert, Romain Duris qui a longtemps tenu ses carnets de dessins secrets.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que le dessin a tout de suite été un non avec le reste, quoi, une façon de dire non. Soit l'apprentissage, soit enfin une forme de scolarité ou d'autorité qu'on puisse avoir sur moi. Le dessin était tellement libre et tellement personnel que ça a été très tôt une déclaration de quelque chose que j'avais envie de déclarer, quoi. Pas de suivre, en tout cas. J'aimais bien faire rire, en fait, voilà.
Vous étiez le numéro 3 de la famille.
Ouais, j'étais le petit dernier, donc c'était peut-être une façon d'attirer l'attention, qu'on m'oublie pas. Et donc je faisais le con. Et partout, en famille, à l'école, dans la rue, voilà.
Mais vous séchiez les cours?
Ça dépend. Pourquoi? Non, j'assumais le truc, hein, mais par contre, je faisais le con pour pas que ça me devienne ennuyant.
Oui, c'est ça ce que vous dites, faire le con.
Ouais, faire le con, c'est pas sécher.
C'est quoi faire le con?
Mais c'est d'être là, mais de détourner un peu tout pour que l'heure passe différemment de comment elle pourrait passer. Ou qu'elle, ouais, pour pas que ce soit toujours la routine. Moi, j'ai toujours eu peur de la routine, donc déclencher des trucs.
Mais comment est-ce qu'elle a commencé cette histoire avec le dessin, Romain Duris, hein? Je crois savoir que vous êtes parisien au départ.
Ouais.
Votre famille peut être qualifiée de famille intello. Votre père, je crois, était architecte. Votre mère, coloriste et danseuse.
Mmh.
Dans quelle mesure est-ce que eux vous ont mené vers le dessin ou des cours de dessin? Ou est-ce que ça vous est venu comme ça, tout seul, hein?
Non, ça m'a venu tout seul. Je corrige un peu, c'est plus artistique qu'un télo, je pense, le milieu familial, et très tôt ouvert à toute forme d'art. Ça, j'ai eu cette chance-là. Ma sœur étant pianiste, il y a toujours eu du son à la maison. Quand il n'y avait pas de piano, c'était de la musique. Donc il y a toujours eu cette sensibilité, en tout cas. Et le moindre, c'est vrai, dessin, dans mes plus lointains souvenirs, était très bien accueilli. Ils accueillaient, ouais, chaque proposition avec positif, et ça nous donnait envie de continuer. Par contre, chambre fermée, dessin sur les murs de ma chambre, et on n'entrait pas comme ça dans ma chambre. C'était quand même très tôt. Le dessin était une façon d'exprimer un monde en moi, un monde que j'avais envie de représenter, mais on rentrait pas comme ça dans ma chambre. C'est moi qui, assez tôt, ai décidé de prendre des cours du soir, justement, dans cette même école du Perret, qui donnait des cours du soir, alors que j'étais encore au collège. J'allais prendre des cours du soir, j'allais dessiner des modèles.
Et qu'est-ce qu'ils ont pensé, vos profs au collège, au lycée, vos profs d'art plastique? Est-ce qu'ils avaient décelé en vous un certain potentiel?
Non, parce que je montrais pas, en fait... J'ai toujours gardé ça très intime. Eux, ils voyaient les exercices que je faisais à l'école, pour l'école. Mais c'était pas ces choses-là où j'étais le plus investi. Moi, j'étais investi dans mes petits carnets intimes que j'ai gardés pour moi et que j'ai montré il y a donc 2 ans maintenant, ici, à la Galerie Cinéma, pour l'exposition Pulp, où d'un coup, j'ai présenté des carnets intimes que j'avais pas montrés, en fait. Même mes parents, je veux dire, ils les ont pas vus. Ils ont vu quelques pages, mais ils n'avaient pas vu tout.
Mais comment vous l'expliquez, ça, que vous ne leur montriez
pas? Parce qu'on ne doit pas tout montrer. On doit évidemment garder les choses intimes. Et puis d'abord, je ne savais pas si j'avais envie de montrer. Ça, c'est arrivé très tardivement. Hein.
Mais c'était des artistes, ils auraient pu comprendre. Hein.
Mais ils ont compris que je ne voulais pas tout montrer. Surtout, c'est là où ils sont forts. Non, je trouve que c'est comme des notes ou c'est comme des... Si on n'ouvre pas son carnet intime, on ne l'ouvre pas.
Oui, c'était votre jardin secret.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos parents? Avez-vous l'impression d'avoir reçu une éducation singulière, hein?
Ils m'ont transmis une confiance en la vie, et ça c'est important. Voilà, une curiosité, ouais, une dynamique.
Une énergie.
Une énergie. Bon, je fais un métier aussi, comédien, sans analyser la chose, mais il y a quand même... des rapports avec l'enfance, des rapports avec des sensations, des émotions qu'on a croisées enfant. Donc on dit bien on joue la comédie. Il y a quand même beaucoup cette façon de se mettre en scène qu'on peut croiser quand on est enfant et qu'on fait... Enfin, ça dépend des enfants, je ne veux pas faire de généralité, mais en tout cas, voilà, moi, il y a une cohérence et donc du coup, c'est très présent, mais c'est pour ça que je n'ai pas tant besoin d'aller chercher des images ou y réfléchir plus que ça. C'est là, quoi.
Et Romain Duris expose ses dessins à la Galerie Cinéma, c'est à Paris, et c'est jusqu'au 11 janvier. Pour l'heure, je vous dis à bientôt sur France Culture, le dimanche à 17h ou en podcast.